Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox. Univox.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Univox. Le 12 septembre dernier, c'est une véritable collaboration radiophonique qui s'est déroulée entre l'équipe du festival À Tour de Bulle et Radio Campus Tours. Une émission spéciale s'est tenue en public et en direct avec la participation des membres du festival pour aborder différentes thématiques autour de la bande dessinée. Lors de cet événement, la revue dessinée, qui va sortir son 10e numéro le 4 décembre prochain, fêtait ses 2 ans d'existence. La revue dessinée, une initiative prise par des auteurs face à la situation décrite dans le documentaire « Sous les bulles » de Mayana Bideguin, extrait avant de revenir sur le direct.
L'économie de la bande dessinée a changé. Les années 60-70, grosso modo, je pense que c'est l'âge d'or économique pour les auteurs de bande dessinée.
José Louis Boquet, auteur BD et directeur éditorial aux éditions Dupuis.
Dans les années 70, je dirais l'histoire de la bande dessinée, en gros, c'est la bande dessinée, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour remplir des journaux. Les auteurs des années 70, ils étaient payés à la page, ce qui était normal. On remplit un journal, on paye à la page, voilà. Et puis en plus, bonus, ils ont des albums, ils sont aussi romanciers, ils ont aussi le statut, d'une certaine manière, d'auteur de livres. Les années 80, c'est la disparition, grosso modo, de la presse. Et c'est la mise en place d'un vrai nouveau système, je dirais même économique, mais aussi créatif, qui est que les auteurs de bande dessinée se mettent à réfléchir en termes d'albums, de livres, comme des romanciers. Les années 2000, c'est quoi ? Il n'y a plus de journaux. Donc les maisons d'édition, qui étaient des maisons d'édition de presse, se sont transformées en maisons d'édition de livres. Les auteurs de bande dessinée se retrouvent dans le même système économique que la littérature. Tu fais un livre, tu es payé pour ce livre. Et tu es payé non pas en fonction de ton temps de travail, et Dieu sait si la bande dessinée, c'est du temps, c'est vraiment du temps, mais tu es payé en fonction de ta valeur sur le marché. C'est vers ça qu'on va aujourd'hui. Et si ta valeur sur le marché, c'est te battre contre les 5500 nouveautés par an, voilà où se trouve la crise économique pour les auteurs. On est dans un monde ultra-libéral, celui de la bande dessinée. Tu bosses pas, t'es mort.
On va aborder avec nos invités la BD comme média et la représentation de celle-ci dans les médias. Pour cela, j'accueille d'abord nos deux nouveaux membres de l'équipe d'À Tour de Bulle à cette table, Fanch et Rodi, bonjour.
Salut.
On va accueillir nos invités qui sont fraîchement arrivés.
Oui, alors on a Hervé Canet, c'est ça ? Si je ne corche pas votre nom.
Non, c'est bien.
Vous avez travaillé à l'ANR, c'est
ouais,
ça ?
Ouais,
vous êtes un critique de bande dessinée.
Voilà, je suis notamment fondé l'association des critiques journalistes de bande dessinée en 1994 à Angoulême, voilà. Entre autres.
Ok.
Et deux auteurs, alors pour l'instant un auteur, puisque Marion Montaigne est encore sur le festival, termine sa dédicace, et Chris qui nous a rejoint. On est hyper content d'accueillir Chris, le Brestois. Chris, on ne le présente plus, hein, que ça soit Un homme est mort ou Notre mère la guerre, mais également la revue dessinée pour laquelle Chris est hyper engagé, et puis on aura le temps de revenir dessus. Voilà.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut commencer peut-être par présenter la revue dessinée à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette revue ?
Oui, bien sûr. Ouais. La revue dessinée, c'est un projet d'auteur avant tout. C'est une revue qui a été créée par un collectif d'auteurs de bande dessinée et de journalistes, avec dans l'idée de créer quelque chose qu'on attendait depuis un moment. C'est une sorte de terrain de jeu, d'expérience, où les auteurs de bande dessinée et les journalistes, pas seulement journalistes, mais aussi universitaires, connaisseurs en tout cas d'un sujet X ou Y, pouvaient se rencontrer et donc raconter des histoires en bande dessinée ensemble, mais uniquement d'un point de vue documentaire, faits réels, etc. et tout ça. Et c'est un genre, la bande dessinée documentaire, qui se développe depuis 15-20 ans, avec des très gros succès d'édition, mais il manquait encore un peu une revue qui permettait de sortir du format album pur et dur, et puis surtout un lieu de rencontre entre ces deux catégories de créateurs, quelque part, que sont les auteurs et les journalistes. Donc voilà, on s'est lancé il y a 2 ans maintenant, on fête nos 2 ans exactement. justement là, à Tours, aujourd'hui, avec la sortie de notre numéro 9. Et ça se passe très bien, mais on y reviendra sans doute voilà, sur toute l'histoire de cette revue.
Est-ce que le point de départ de cette revue dessinée, c'est aussi un constat par rapport aux médias et à la bande dessinée ?
Alors, il y avait un peu de tout, c'est-à-dire que du côté de la bande dessinée, si les éditeurs avaient créé une telle revue, on ne l'aurait pas fait nous-mêmes. Hein. On ne serait pas embêté. Ce qu'on aime avant tout, c'est quand même écrire ou dessiner. Mais depuis des années, on les poussait un peu à créer ça et puis ça ne bougeait pas. Donc on a fini par décider de le faire nous-mêmes, en sachant qu'il y avait aussi un engagement vis-à-vis des auteurs qui était de redonner de la valeur à nos métiers, c'est-à-dire de payer correctement les auteurs, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient vraiment accompagnés dans leur création, ce qui est de moins en moins le cas parfois auprès des éditeurs. Donc c'était aussi une manière de transformer les revendications des auteurs, qui étaient nombreuses, et d'essayer de les appliquer, de voir si ça marchait, si c'était viable, etc. La revue dessinée, elle sort tous les 3 mois, elle est rentable à 17 000 exemplaires vendus, ce qui est une hérésie d'un point de vue commercial. Aucun éditeur n'aurait lancé un tel truc en se disant que le point mort était à 17 000 exemplaires. Malgré tout, ça fait 2 ans qu'on est là, et pour l'instant, on gagne pas beaucoup d'argent, mais enfin, on n'en perd pas non plus. Donc ça, c'était d'un point de vue bande dessinée. D'un point de vue journalistique, oui, je suis pas journaliste, donc je peux pas parler à leur place, mais tous les journalistes disent qu'ils ont moins en moins de temps pour des articles de fond au long cours, etc. La plupart des jeunes journalistes doivent travailler à la pige. On a énormément de très jeunes journalistes, hein, de moins de 40 ans, mais moins de 30 ans. On a pas mal de journalistes de 25, 28 ans qui sont férus de bande dessinée, nourris de nouvelles communications, etc. Mais qui trouvent pas obligatoirement leur place dans les journaux aujourd'hui.
La question de temps, ça tombe bien que vous l'abordiez, parce que je voulais vous poser la question. Justement, vous avez fait le choix de prendre le temps de sortir une revue en faisant, et puis j'imagine que les dessins, ça prend du temps aussi. C'est justement complètement à contre-courant de l'information aujourd'hui qui est beaucoup dans l'immédiateté finalement.
Oui, au départ, les gens ont cru qu'on allait faire une revue de dessin de presse, par exemple. Quand on allait voir des grands journaux pour essayer de trouver des partenaires aussi, on se rendait compte à quel point il y avait une méconnaissance de la façon de faire de la bande dessinée, où oui, on nous disait « Ah, mais alors donc, la semaine prochaine, vous pouvez nous refaire l'attaque contre Mohamed Merah, par exemple. » Non, on va pas faire en une semaine, on va pas reconstituer l'attaque voilà, comme ça, sur le pouce. Au contraire, la bande dessinée, oui, ça prend un récit de 30-40 pages, ça va prendre 6 mois, sans même parler des fois des recherches préalables, etc. Donc, d'un point de vue technique, on est obligé de toute façon d'aller sur le fond et de prendre du temps pour le travail, ce qui est effectivement une autre façon à contre-courant de traiter l'information. On n'est pas précurseur là-dessus, Mediapart le fait, 21 le fait. Là où on est précurseur, on va dire, c'est de vraiment le formaliser uniquement, entièrement en bande dessinée, pour la bande dessinée.
Un exemple simplement, quand Joe Sacco, qui est en gros le type qui a lancé ce journalisme de bande dessinée ou cette BD documentaire, Joe Sacco, quand il a sorti Gorodzé en 95, il a été 2 mois en Bosnie et il a mis 5 ans à faire son album. Parce qu'effectivement, alors ça fait 250 pages, mais il fallait pour lui aller au fond des choses et ça se fait pas en un quart d'heure. Et effectivement, le problème de l'information zapping que là, ces journalistes connaissent par cœur et qui les pressure totalement et qui les empêche. Aujourd'hui, écrire long, ça ne se fait plus. Je veux dire, y compris dans les journaux de province où moi j'ai travaillé, 80 lignes c'est le maximum. En 80 lignes, vous ne dites rien, c'est clair. Et quand vous faites une page complète dans le Monde, bon, les gens du Monde disent, les gens ne lisent plus. Alors effectivement, on est dans un moment où journalistiquement les choses deviennent très compliquées, où le zapping a pris la place de la réflexion, et où effectivement les grands reportages sont exclusivement aux presses l'apanage de la télévision. Donc il y a une espèce de décalage qui se fait entre la volonté journalistique de faire des choses et la capacité qu'ont les journalistes effectivement à donner, à voir, à écrire, etc., etc. Et l'arrivée du BD reportage, du BD documentaire, du BD journalisme, on l'appellera comme on voudra, effectivement, a apporté une sorte de souffle nouveau, de regard nouveau sur, y compris l'actualité. Et ça, c'est absolument, enfin, c'est extrêmement intéressant à constater.
Finalement, dans les médias, on essaye toujours de faire du storytelling et pour appâter un peu le public. La BD sait le faire, ça.
Bah, c'est intéressant parce que quand on a lancé l'idée de la revue, beaucoup de gens nous disaient « Mais vous allez alors faire que des récits réalistes, au dessin réaliste, tristes, enfin durs, etc. » Et tout ça comme si on pouvait pas traiter l'information avec de l'humour et comme si on pouvait pas effectivement apporter des connaissances aux gens par d'autres biais. Alors là, on en a un des meilleurs représentants à cette table. C'est un enchaînement super, en fait. C'est Marion Montaigne qui vient d'arriver parce que là, on est vraiment pile poil dans cette autre façon de faire du documentaire qui, par l'humour, vous amène malgré énormément de connaissances et touche un public extrêmement large.
Ouais, alors Marion, donc merci d'être venu. Hein. Donc, tu es l'auteur du blog Tu mourras moins bête, qui a été aussi édité en bande dessinée. Ce matin, tu as donné une conférence sur la vulgarisation scientifique dans la bande dessinée. Et tu interviens aussi dans le cadre de la revue dessinée.
Oui, tout à fait.
Une des premières, oui.
Oui, oui, c'est vrai.
Dans les deux premiers numéros.
Donc, qu'est-ce que ça t'apporte de plus, justement
Qu'est-ce que tu es venu chercher et qu'est-ce que ça t'apporte?
Qu'est-ce que je suis venu
chercher? Par rapport à ton blog.
Eux sont venus.
Ouais, pour le coup, les précurseurs, c'est plutôt nous qui sommes venus. Ouais.
Voilà, ils sont venus à quota de femmes. Non, je pense qu'ils aimaient bien mon travail, j'espère. Non, c'est parce que ils savaient que j'étais un peu tout terrain, que j'aime bien aussi sortir de l'atelier. Moi, dès qu'on me donne l'occasion de rencontrer des gens qui ont des choses à me raconter et ça va me donner envie. Et ensuite, je vais avoir envie de le raconter en BD. Donc. Ouais. Pour le coup, j'avais justement envie d'aller suivre des... Ben, j'habitais pas très loin du zoo qui est le plus vieux zoo de France, même quasiment d'Europe, non, c'est le deuxième plus vieux, qui est au Jardin des Plantes, la ménagerie. Et donc, je leur ai proposé d'aller suivre vraiment des gens au quotidien qui travaillent, les soigneurs, les vétérinaires... Pour expliquer toute leur démarche, mais moi personnellement, j'aime bien les suivre, regarder ce qu'ils font, leur poser des questions idiotes.
Ouais, c'est vrai que ça permettait du coup de sortir du.
Ça, comme ça, j'ai bien sorti de mon atelier.
Voilà,
ça m'a changé. C'est pas les mêmes bestiaux qu'il y a dans mon atelier. Ouais. Mais non, ça m'a pas trop dépaysé.
On écoute Pino Dengio avec Ke Idea et on revient dans quelques minutes pour parler BD et médias sur Radio Campus Tour.
Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bimbo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi. Scusa, in fondo scusa, tu che dai?
Nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in senza avere mai le cose che pretendi in fondo, scusa in cambio tu che dai?
Che idea?
idea, che idea, che idea.
Ma quale idea?
Balla. Balla.
Quale idea?
Che idea?
Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Balla.
Univox.
Et aujourd'hui, Chris est énormément sollicité par des auteurs pour la revue dessinée.
Il y a les deux cas. C'est, on est beaucoup sollicité par les journalistes. Ça, c'est en moyenne 5 à 6 sujets tous les jours qui nous arrivent. Parce que les journalistes aujourd'hui, notamment, encore une fois, toute cette jeune génération de journalistes qui arrive, est habituée à ça, à devoir justement faire un peu le mercenaire, entre guillemets, d'aller proposer les sujets sur lesquels ils travaillent à différents supports, etc. Donc, ils nous, et on est en train de devenir quand même un petit Eldorado pour lesquels, beaucoup de journalistes aimeraient bien travailler parce que c'est une expérience différente, parce qu'on essaye, encore une fois, de payer correctement les gens, même si on les paye pas du tout assez, hein, malgré tout, faut être clair. Ça mériterait d'être mieux payé, mais pour l'instant, l'économie, elle est comme ça. Et par contre, au niveau des auteurs de bande dessinée, c'est beaucoup plus compliqué. Et parce que les auteurs vont tous vous dire « Ah ouais, super, moi ça m'intéresse, c'est génial. » Mais ils ont encore beaucoup de mal à sortir du carcan de l'album, justement, pour lequel ils sont sûrs, pour lequel ils vont être payés d'une certaine façon, avoir des droits d'auteur, etc. et tout ça. Et qui, du coup, les prend pour 2 ou 3 ans. Et voilà. Et non, donc, notre grande difficulté aujourd'hui est de trouver les auteurs de qualité et en nombre suffisant pour réaliser tout ce qu'on aimerait réaliser. L'avantage, c'est qu'on a par contre une vraie bande qui nous suit. Aujourd'hui, il y a quand même une famille, un peu la revue dessinée. Il y a ceux qui étaient là dès le départ, qui eux, alors, dans le vide le plus complet, nous ont fait confiance et ont commencé à travailler alors qu'on n'était rien, qu'on était une idée. Voilà, c'est tout. Oui, Marion a commencé à travailler sur une simple idée, Christian Caillot aussi, et sur des projets quand même assez importants. Et puis des auteurs plus connus comme Davodo, comme Lepage, et puis des jeunes auteurs comme Benjamin Adam ou Vincent Sorel qui sont là aussi sur le festival, qui eux, c'est plutôt la revue dessinée qui les fait connaître un peu d'un public plus large que ce qu'ils avaient l'habitude jusqu'à présent, et qui sont des super jeunes auteurs. Voilà. Mais c'est plus compliqué au niveau des auteurs de bande dessinée.
J'ai une question pour tous les trois. On est en 2015, on en est où de la BD dans les médias? Comment elle est représentée dans les médias?
Je vais prendre des exemples que je connais. En matière de presse régionale, PQR, il y a pratiquement plus de bandes dessinées. Il y a quelques dessins de presse. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse, si vous voulez, et rendre un hommage, mais alors vraiment extrêmement important, à la planche qu'a sorti Zep il y a 2 jours dans Le Monde, où il est très influencé par la mort du petit Ilan. Il a fait une planche exceptionnelle. Pourquoi elle est exceptionnelle? D'abord parce qu'elle est dramatique, et que pour la première fois dans la bande dessinée, un dessinateur tue son héros. Puisque Titeuf, à la fin, est tué, assassiné par un sniper, alors qu'il essaye de franchir une frontière. Son père a été tué, sa maîtresse a été tuée, son petit copain a été tué, et à la fin de la planche, Titeuf meurt. C'est à part la dernière case du bouquin posthume de Hergé où il semble que Tintin aille à la mort, c'est la seule fois où on voit un dessinateur délibéré. Alors attention, Titeuf n'est pas mort. Évidemment, il y a un album qui sort, etc., etc. Il va continuer à parler Zizi et Bistouquette puisque c'est ça qui fait le succès de Titeuf. On est bien d'accord. Mais on est complètement dans le BD et le journalisme, quoi, je veux dire. Hein. Il y a une émotion qui inspire ce dessinateur. Il fait une planche complète. Il la publie dans Le Monde. Il la publie sur le blog du Monde aussi. Voilà, on est effectivement à ce lien très compliqué parce que la bande dessinée en tant que telle, elle a pratiquement disparu des quotidiens. La grande époque de François, du Matin de Paris, c'est terminé. La Nouvelle République, dont je suis le représentant ici, a publié pendant des années des bandes dessinées absolument incroyables, superbes. Il se trouve que je travaille sur l'histoire de la bande dessinée de la Nouvelle République. Et vous ne pouvez pas savoir ce que la NR a publié comme trésor pendant les années 60-70. On n'en a aucune idée. Des Hans Kresseux, des choses complètement aujourd'hui qui sont des choses de très grande valeur qu'on redécouvre. Mais aujourd'hui, effectivement, le rapport... Alors après, il y a les magazines, mais les magazines se cassent la figure les uns après les autres. Vécu, à suivre. J'étais au lancement d'À suivre il y a 20 ou 30 ans dans un château magnifique en Charente à côté d'Angoulême.
qu'est-ce qui reste à suivre ? Jean-Paul Mougin est mort, paix à son âme. Bon, les magazines de bande dessinée en tant que tels fonctionnent beaucoup moins bien. Je suppose d'ailleurs que les auteurs eux-mêmes se rendent compte de ce vide. Comment être publié aujourd'hui, quoi, hein, c'est un peu une question. En dehors de l'album, j'entends bien sûr.
En plus, déjà
hein.
que la presse, c'est pas la fête. Alors
non, absolument.
Correctement.
En ayant beaucoup d'ambition malgré tout. Je pense que justement, quand on a décidé de faire la revue, il y avait tout ce que vient de décrire Hervé, qui évidemment, voilà, on nous disait, mes amis, bon courage. Et malgré tout, on s'était dit dès le départ, de toute façon, ça marche et tout le monde en vit. C'est-à-dire, on va pas survivre sur la force du travail des copains, etc. Tout ça, où ce truc marche et fait vivre tout le monde correctement, ou alors on n'y va pas. Mais pour ça, il fallait vraiment, effectivement, travailler beaucoup, faire une belle revue de qualité, etc. Et tout ça, enfin, la plus grande qualité possible. Et pour l'instant, alors encore une fois, c'est pas l'Eldorado, hein, on va pas partir en vacances avec toute la bande 3 mois par an. Mais encore une fois, elle se vend aujourd'hui en librairie autour de 12 à 15 000 exemplaires à peu près, plus 4 500 abonnés derrière. Après, pour en revenir à l'image de la presse dans les médias, comme dit Hervé, c'est très difficile dans les journaux, alors les magazines, on n'en parle même pas. Après, il y a deux choses. On continue à avoir un fonctionnement un peu iconique, c'est-à-dire la bande dessinée est très connue et va être très utilisée. Ben, Titeuf, par exemple, un personnage emblématique. Donc, on va pouvoir avoir cette page géniale dans Le Monde. On va encore parler toujours d'Astérix ou Tintin ou autre. Mais toute la masse de la bande dessinée derrière, Dieu sait s'il y a une qualité incroyable comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de la bande dessinée aujourd'hui. Et la France en est un des Hollywood. Enfin, il faut quand même le comprendre, quoi. Et,
c'est ça qui est étonnant, justement, que dans les médias, ça soit si peu...
Vous ne pouvez pas savoir l'ignorance. Et pourtant... Alors ça évolue, hein, parce qu'arrive au pouvoir quand même aussi une génération de rédacteurs en chef, de gens aux manettes qui ont été biberonnés à la bande dessinée. Mais encore, quand on a lancé la revue dessinée, l'ignorance qu'on a rencontrée quand on allait voir plein de grands journaux en disant « Voilà, il y a peut-être moyen de faire des partenariats, on cherchait des sous évidemment, des choses comme ça. Je suis arrivé, je ne citerai pas son nom, mais un des plus grands rédacteurs en chef, éditorialiste et plus connu. On est arrivé avec le projet. Quand on lui a dit, bon, vous voyez, des gens comme Josako, par exemple, on a démarré par Josako, évidemment, jamais entendu parler, il faut quand même le faire. On enchaîne avec Davodo, Guibert, Vagnon, le seul, c'était Spiegelman. Voilà, ou là, ouais, quand même, bon, ok, Mao, c'est de Spiegelman, on connaissait un peu. Et donc.
Non.
Et en face, la directrice financière, qui était quand même très importante, évidemment, pour nous, nous dit, ah, vous savez, hein, non, on est resté à Boulébile. Voilà, la phrase classique, quoi. Et là, on se dit, bon, comment on va expliquer ce qu'on veut faire, une revue de BD de journaliste, quand les gens connaissent que, on sont restés à Boulébile. C'est très, très compliqué. Alors, on allait montrer sur Internet, voilà ce que fait Boris, voilà ce que fait Marion Montaigne, voilà ce que fait Guibert et tout ça. Ah, ouais, ouais. Ah, ben voilà, vous allez nous faire l'attentat de Mera, parce que c'était le jour de la mort de Mera. Vous allez nous le refaire pour la semaine prochaine. Bon, là, bon, voilà, les bras nous en tombent. Mais quand même, il y a une évolution de prise de conscience que la bande dessinée est un langage et non pas un genre. Pas un genre pour divertir, c'est un langage. Et à travers ce langage, on peut traiter tout le style de récit. Et surtout, elle pénètre très très fortement au collège, au lycée, à l'université. Ça, là-dessus, il y a un vrai mouvement depuis 10 ans par la bande dessinée documentaire que les profs utilisent de plus en plus et invitent des auteurs qui, évidemment, viennent. Ça fait aussi des sources de revenus supplémentaires, éventuellement. Donc là, il y a une vraie percée quand même depuis 10 ans, mais qui ne se retrouve pas encore dans les médias, c'est vrai.
Ça rebondit sur ma question à Marion Montaigne en parlant de l'éducation. Vous faites de la vulgarisation grâce à la BD. Ça peut être un moyen justement d'apprendre via cet art et de susciter l'intérêt. Est-ce que vous êtes de celles et ceux à qui le système scolaire n'a pas su susciter l'envie d'apprendre ?
Ah si, au contraire. Si, j'étais bonne élève. Hein. J'étais même très bonne élève. Mais
la crâneuse.
Ça suffit là, les mecs là qui ont rien fait de leur scolarité à gribouiller des nanas. Non, moi j'étais bonne élève, monsieur.
Oui, mais j'ai vu que tu voulais être dans le milieu médical, hein, non, c'est ça.
Oui, mais je me suis un peu. Je me suis un peu sous-estimée. Mais j'aimais bien. Enfin, j'aimais bien. Non, la scolarité bof, mais j'aimais bien apprendre. Mais c'est vrai que maintenant, ça me fait plaisir. Il y a une petite revanche quand des profs m'écrivent en disant « Est-ce que je peux utiliser vos planches pour... » Mais bien sûr, je vous en prie. Est-ce que vous pourriez contacter mon ancienne prof de... ça me flatte parce que c'est juste une... Le problème, c'est pas de savoir, c'est comment on nous l'apprend, en fait. Moi, je pars du principe que tout le monde, s'y prend son temps... peut comprendre quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve que pour les journaux, la BD, il y a un rapport au temps qui est différent avec la revue dessinée, c'est qu'on se donne quand même le temps. Moi, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse parce que c'était à plus long terme. La note de blog, je peux le faire assez vite, tandis que La revue dessinée, j'ai dû prendre plusieurs semaines pour aller voir. Vous devez voir des personnes, vous allez sur place et vous n'avez pas des rendez-vous tout de suite. Vous allez en voir un, il peut pas ce jour-là, ça se repousse, vous réfléchissez. Ouais. Et donc, il y a un rapport au temps que...
Mais ça, c'est du journalisme.
Oui, ah oui, tiens, c'est vrai. Oui. Tout à fait. Bah, oui. Et je pensais à produire de la planche dans le scoop, un peu comme un dessin de presse. Je vois pas trop comment faire. Enfin, on fait du dessin de presse, mais faire une planche, j'essaye d'imaginer un strip ou une planche. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est chaud. Moi, ça me rendrait malade, hein. Du jour au lendemain, faire des planches. Ouais. Faut le temps de réfléchir, quoi, et pas dire de bêtises.
Mais c'est vrai que les auteurs de bande dessinée se disent pas journalistes, encore sauf Josako, hein, encore une fois lui, qui lui se dit avant tout journaliste, et qui utilise le langage de la bande dessinée pour ses reportages, mais il se définit avant tout comme journaliste, ce qui n'est pas le cas d'un Avaudot par exemple, ni d'un Guibert, ni d'autres auteurs. Malgré tout, oui, dans les faits, effectivement, il y a une façon de travailler, une démarche qui est journalistique. Après, la rencontre aussi entre ces deux milieux est souvent très créatrice quand même. Pour l'instant, on a assez peu de mauvaises expériences, qu'on est des marieurs en fait à la revue. Hein. On marie un journaliste qui nous a amené un sujet avec un auteur, on essaye que ça fonctionne. On a des fois des échecs, mais plutôt avant que ça ait vraiment démarré. Une fois que vraiment on pense qu'on a trouvé le truc, non, ça a fonctionné et parfois de toute façon ça fait des étincelles dans le bon sens du terme. Ouais. Il y a 5 livres aujourd'hui qui sortent en librairie, enfin pas aujourd'hui même, mais depuis la sortie de la revue dessinée, qui sont directement issus de la revue dessinée. Donc on en revient à la revue d'abord et ensuite peut-être un album. Si...
Juste un petit contrepoint historique, en 1949, il y a un gars d'origine italienne qui s'appelle Aluderzo qui cherche du boulot. Il va à France Dimanche. Il n'y a pas de photographe encore à l'époque parce qu'il y a, enfin, il y a des appareils photo, mais il n'y a pas assez de photographes. Et Aluderzo va commencer sa carrière de dessinateur en allant sur le terrain faire les faits divers en direct live. Il n'y a pas de photographe. On demande à Aluderzo, qui a un trait extraordinaire, de dessiner l'incendie ou le meurtre des machins. Et si vous trouvez aujourd'hui des planches de France Soir de 1949, elle va valoir une véritable fortune pour les collectionneurs. Signé Aluderzo.
On va devoir vous laisser par manque de temps, puisqu'en plus il y a la conférence qui arrive dans quelques minutes. La conférence s'appelle Bilan et Perspectives. Est-ce qu'on peut en avoir un extrait?
Des perspectives pour que ce soit bon. Le bilan, je voulais dire, voilà, on ne perd pas d'argent et on en gagne un tout petit peu. Et la revue a trouvé son rythme de croisière autour de 15 000 ventes à peu près, 4 500 abonnés. On espère qu'on va continuer à progresser. Mais surtout, on va décliner le concept de la revue dessinée pour la jeunesse. Et je vais vous dire pour la première fois le nom en direct, puisque on l'a décidé il y a 2 jours. Donc elle s'appellera Topo. Et donc c'est la revue dessinée, mais pour un public plus jeune. Et elle sera pas trimestrielle, elle sera bimestrielle. Et donc elle sera un petit peu moins épaisse, mais elle fera 150 pages, 160 pages à peu près, pour un public jeunesse. Et c'est 2 jeunes femmes qui vont assurer la rédaction en chef, et qui à la fois viennent l'une du milieu journalistique plutôt, et l'autre de la bande dessinée en l'occurrence. Alors ça, on annoncera un peu plus en détail bientôt, et ça devrait sortir à la rentrée 2016 si tout va bien.
Ouais, merci beaucoup.
Univox. Cette émission Univox, concoctée par Radio Campus Tours et consacrée à la bande dessinée, a été enregistrée à l'occasion de la 11e édition du festival à Tour de Bulle. On vous souhaite une excellente soirée sur les ondes des Radio Campus. Ciao. Univox.